Et à réciter les prières, donc dans le petit livret, à la découverte du bouddhisme, à la page 7. Et on va réciter ce matin toutes les prières, puis après les sessions successives, on fera la version abrégée. Donc on les récite en français. Et pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, le premier verset, on le récite trois fois. Hein. C'est un de mes oublis. J'ai oublié quand j'ai envoyé le livret à Jean-Paul, j'avais oublié de mettre trois fois. Devant vous, le maître, le victorieux qui a transcendé la souffrance, l'insialé, le destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Shakyamuni, je me prosterne. En vous, je prends refuge et vous présente d'offrande. Accordez-moi votre bénédiction. Devant vous, le maître, le victorieux qui a transcendé la souffrance, l'insialé, le destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Shakyamuni, je me prosterne, en vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Accordez-moi votre bénédiction. Devant vous, le maître, le victorieux qui a transcendé la souffrance, l'insialé, le destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Shakyamuni, je me prosterne, en vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Accordez-moi votre bénédiction. Le sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage à la sainte perfection de la sagesse. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavad se trouve à Rajakriya, sur les pics des vautours, en communion spirituelle avec la grande assemblée des moines et la grande assemblée des bodhisattvas, quand il s'absorba en la méditation sur les innombrables existants, appelé vision du profond. En même temps, le grand et noble Bodhisattva Okteshvara entreprit une méditation sur la profonde sagesse parfaite et il réfléchit à ce que les agrégats également étaient vides de nature propre. Et par le pouvoir du Bouddha, Shariputra s'adressa en ces termes au grand et noble Bodhisattva Okteshvara. Les fils et les filles de la lignée désireux de pratiquer la profonde sagesse parfaite, comment doivent-ils s'y prendre? Le grand et noble Bodhisattva Okteshvara répondit alors à Shariputra. Shariputra, les fils et les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde sagesse parfaite doivent prendre en considération ce qui suit. Ils doivent réfléchir avec soin et précision à ce que les agrégats sont vides de nature propre. La forme est vide. La vacuité comporte la forme. En dehors de la forme, il n'est pas de vacuité. En dehors de la vacuité, il n'est pas de forme. De même, la sensation, l'identification, les formations volitionnelles, la conscience sont-elles vides? Shariputra, ainsi tous les existants sont-ils vacuités? Ils n'ont pas de spécificité. Ils ne sont ni produits ni détruits, ni souillés ni immaculés. Ils ne décroissent ni ne croissent. Shariputra, ainsi la vacuité n'a-t-elle ni forme, ni sensation, ni identification, ni formation volitionnelle, ni conscience? Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil à l'élément de la conscience du mental, elle n'a pas d'élément. Elle est dépourvue d'ignorance comme d'élimination de l'ignorance. De même est-elle l'une du vieillissement et de la mort, ainsi que de l'élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, la vacuité n'a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Elle n'a ni sagesse, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la sagesse parfaite et ils demeurent en elle. Leur esprit étant sans voile et sans peur, et comme ils sont bien au-delà de toute erreur, finalement ils parviendront au nirvana. C'est en s'appuyant sur la sagesse parfaite que les bouddhas des trois temps, eux aussi, obtiennent l'éveil parfait, accompli, sublime. Aussi le mantra de la sagesse parfaite est-il le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien supérieur, le mantra sans égal, le mantra qui apaise à jamais toute peine. Et il faut savoir que ce mantra est véridique puisque sans mensonge. Et voici ce mantra. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi que les grands bodhisattvas doivent pratiquer la sagesse parfaite. Puis le Bhagavad sortit de sa concentration et remercia le grand noble bodhisattva Kteshvara en l'approuvant. Bien, bien, fils de la lignée, il en est ainsi. Et c'est exactement comme tu l'as exposé qu'il convient de pratiquer la grande sagesse profonde et tous les Tathagatas se réjouissent. Lorsque le Bhagavad dit cela, Shariputra, le grand Bodhisattva Okteshvara, L'entourage muni de toutes les qualités, les déités, les hommes, les Asua et les Kinara se réjouirent et louèrent les paroles du Bhagavan. Et on continue avec la prière à la Dakini au visage de Lyon qui se trouve à la page 11. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois lieux, demeurant dans le Saint Yoga jouissant de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de son enfant. Akasamara Tsachanasamaya Pers. Akasamara Tsachanasamaya Pers. Tayata Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodeso. Par la vérité de l'existence des trois joyaux, que soient surmontés tous les obstacles et difficultés externes et internes, qu'ils deviennent inexistants, qu'ils soient apaisés. Que soient complètement apaisées toutes les forces négatives opposées au Dharma, que soient apaisées les 80 000 obstacles, puissions-nous être séparés de toutes les conditions adverses et obtenir des circonstances favorables et tout ce qui est bon. Qu'il était ici heureux présage, bonheur et bien-être sur le champ. Et vous voulez réciter en tibétain ou en français? En tibétain? On va chanter un peu. Et pour conserver les bonnes habitudes, on va continuer par une petite méditation sur... Voilà, sur le souffle. Susanna, tu conosces bien la respiration semplice sulla respirazione, sì? Prendi quella che ti piace di più, e per 5 minuti si fa meditazione sul respiro. Jean-Michel, est-ce que tu connais une petite méditation sur la respiration? Ouais. Donc pendant 5 minutes, on va faire juste une petite concentration sur la respiration pour pacifier un petit peu l'agitation mentale et donc lui donner un petit peu une coloration neutre pour après pouvoir développer l'amour et la compassion. Si vous m'entendez ronfler, vous me réveillez, d'accord? Donc le petit bruit que vous avez entendu, c'était pour se réveiller. C'est dans ce genre de méditation qu'on s'aperçoit si on est frais ou si on n'est pas frais. Je peux vous dire que je ne le suis pas trop. Alors, le sujet du week-end, c'est comment méditer. pour ceux qui ont le livre La Voie vers l'éveil, c'est le chapitre 6 qui se trouve de la page 61 à 95. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, ça y est, je vous ai trouvé une occupation. Pour faire ce sujet, je vous ai préparé aussi un petit livret, prière, que je vais vous faire passer maintenant. Vous en prenez un, puis vous faites passer à ce petit livret prière. Il est tiré du livre. C'est le livre, donc il explique un petit peu, vous allez voir, les pratiques préparatoires à la méditation, avec quelques visualisations, quelques prières à réciter, etc. Donc j'ai extrait du livre toutes ces prières pour que vous ayez à votre disposition un petit manuel qui soit plus facile à utiliser. D'accord ? Et on va utiliser ça aussi un petit peu, on va l'utiliser surtout, je pense, aujourd'hui. On va parcourir un petit peu les différentes étapes de ces prières. Donc, le sujet, comment méditer ? Exactement comme le fait Douceline. Avant, en fait, de se poser la question comment méditer, il y a une question qui me saute suite à l'esprit, c'est surtout pourquoi méditer ? Vous avez pris l'habitude maintenant, vous savez que j'aime bien poser des questions. Pourquoi méditer ? Pourquoi méditer ? Et pour commencer à répondre à cette question, je vais poser uniquement à Suzanne et à Jean-Michel, parce que les autres, je vous ai déjà posé la question. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans la vie ? Quelle est la chose essentielle, le but essentiel vers lequel on se tourne ? Ce qu'on recherche vraiment dans la vie ?
Selon les enseignements.
Ouais. Donc, vous êtes tous familiers avec cette réponse, on recherche le bonheur et on veut pas la souffrance. Donc, elle a dit, c'est ce qui est dit dans les enseignements, et la méditation peut nous aider à faire ça. Mais c'est vrai que si on regarde, on oublie complètement même ce qui est dit dans les enseignements, si en tant qu'être humain, être sensible, on se pose la question, qu'est-ce que je veux ? Jean-Michel, qu'est-ce que tu veux ? Alors, en tant qu'être humain, vraiment, en tant qu'être humain, toi, tu cherches le bonheur. Tu essayes d'éviter la souffrance, non ? Et c'est des questions très simples, mais qui sont extrêmement importantes. Parce que si on y réfléchit, si on essaie de donner une réponse, on va orienter toute notre vie par rapport à cette question. Et si on n'est plus très clair par rapport à ce point précis, peut-être qu'on va se mettre à, je ne sais pas si on dit tergiverser, on va prendre des routes divergentes, et on va peut-être perdre une grande occasion, le très gros potentiel qu'on a en nous. Donc on veut le bonheur, on ne veut pas la souffrance. Maintenant, si on regarde un petit peu notre situation, là c'est un petit peu une révision de ce qu'on a vu la dernière fois, mais c'est tellement important pour vous dire que moi, plus ou moins, tous les jours, pendant une demi-heure, je médite sur ces questionnements et les réponses un petit peu que je vais apporter par rapport. Donc, je ne veux le bonheur, je ne veux pas la souffrance. Après, donc, bien essayer de prendre un peu le temps, qu'est-ce que c'est que véritablement le bonheur ? Comment le bonheur fonctionne ? Comment la souffrance fonctionne ? Qu'est-ce que c'est que vraiment que la souffrance ? Donc la fois dernière, on avait vu que la souffrance, il y a différents niveaux de souffrance. Il y a la souffrance, donc les termes philosophiques, c'est la souffrance de la souffrance. C'est ce qu'on nous, dans nos termes de tous les jours, on appelle la souffrance physique ou mentale. Donc souffrance physique, qui sont que trop nombreuses, qui vont de la souffrance de la maladie, du maux de tête, on se fait mal en travaillant, en cuisinant, on se coupe, etc. D'accord ? Et avec différentes intensités de souffrance. Aux souffrances mentales. Peut-être que nous, en Occident, en fait, on est très exposés à cette souffrance mentale. Encore dans d'autres pays, par exemple du tiers-monde, peut-être qu'ils ont des souffrances physiques très crues, quand je dis crues, c'est très intense, mais très crues, très basiques, du genre le froid, le chaud, parce qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas forcément une maison, ils n'ont pas forcément le confort matériel qu'on a. Ils ont peut-être une grande, grande souffrance physique due à la faim et à la soif. D'accord ? Nous, de par notre culture, de par le confort qu'apporte notre culture, peut-être qu'on est à l'abri de ces souffrances physiques, mais on a beaucoup plus de souffrances mentales. Et peut-être même en Occident, une des souffrances mentales les plus fréquentes, c'est, je ne sais pas dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais la souffrance de la solitude. Et une très grande, souvent, une très grande donc, solitude intérieure. Et c'est un paradoxe, non ? Parce qu'on a créé ces très grandes villes, etc. Et donc, il y a une concentration d'êtres humains incroyable. Donc, je ne sais pas, j'ai pas étudié les chiffres, là. J'aurais dû, en fait, pour avoir l'air un peu intelligent, mais c'est pas grave. On prend les grandes villes. Il y a une concentration donc d'habitants en mètre carré qui est hallucinante. Pourtant, il y a vraiment cette très grande souffrance mentale. Donc, après, c'est bien prendre conscience que dans notre pain quotidien, effectivement, il y a ces souffrances très crues, physiques et mentales. Se rappeler, on ne veut pas de ces souffrances. D'accord ? On recherche le bonheur. Okay ? Après, donc, dans l'enseignement du Bouddha, le Bouddha nous a justement essayer de questionner, entre guillemets, pour vraiment bien comprendre qu'est-ce que c'est la souffrance. Est-ce que la souffrance, ça ne s'arrête que là ? On a vu que, en fait, le Bouddha avait exposé des souffrances plus subtiles. Et par exemple, ce qu'on appelle le bonheur, les sensations plaisantes, les expériences plaisantes, physiques et mentales, si on y regarde d'un petit peu plus près, est-ce qu'elles ont réellement la nature du bonheur ? La félicité ? Donc, question. Non ? Pourquoi ? Parce que là, j'espère que je vous ai habitué la fois dernière à bien voir que ce qui est important, ce n'est pas des problèmes techniques. La chose importante, ce n'est pas juste d'écouter d'une manière passive tout ce que je suis en train de raconter, mais vraiment d'avoir un examen intérieur et de comparer, d'analyser, de voir est-ce que c'est vraiment oui ou non notre réalité. D'accord ? La question de base, là, elle est vraiment de notre vie de tous les jours. On veut le bonheur, on ne veut pas la souffrance, mais il y a de la souffrance. Et on essaye de regarder vraiment un petit peu plus en profondeur ce fonctionnement bien réel. Donc, on dit, le Bouddha a dit, regardez ces expériences de bonheur. Est-ce qu'elles ont véritablement la nature du bonheur ? Donc Sophie dit non. Sophie est courageuse aujourd'hui. Parce qu'il y a la question qui tue après. Pourquoi ? Là, on voit que j'habite en italien, hein. Je dis ma, mais c'est, on ne dit pas ça en français. Mais Sophie dit ça, mais vous êtes d'accord avec elle ?
C'est peut-être l'aspect temporaire de ces expériences plaisantes qui font que dès qu'elles cessent, pour tomber dans la souffrance, alors pour rechercher une nouvelle expérience plaisante, c'est un peu la fuite en avant.
Donc en fait, c'est vrai que cette expérience plaisante, elle ne dure pas. D'ailleurs, le terme philosophique que les bouddhistes, les érudits bouddhistes emploient, c'est la souffrance du changement. Cette expérience de bonheur plaisante, on l'appelle la souffrance du changement. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Jean-Michel très justement, cette expérience, elle n'est pas permanente, elle ne perdure pas. D'accord ? Par exemple, il y a une tradition ici en Suisse, quand je viens, le dimanche soir, vous ne savez pas, mais avec Jean-Paul, donc avant que le train arrive, parce que le train il part à 11h13, hein, faut que j'ai les horaires dans ma tête, parce que sinon après je risque de le rater. Donc on se retrouve au restaurant, et puis il y a le rosti. Le rejeté. Hein? Parce que je viens en Suisse, il me dit, tu veux une pizza? J'ai dit, non, mais attends, une pizza. Moi, j'en veux pas. Lui, il en veut parce que bon, il n'en mange pas tous les jours. Moi, je veux les plats suisses. Donc, il y a cette expérience, cette tradition du manger le rejeté qui est délicieux. Je dois dire, c'est pour ça que c'est devenu une tradition. Si on regarde vraiment cette expérience, donc c'est une expérience, c'est. Non, là c'est un mot de français trop compliqué que j'arrive pas à retrouver. C'est clair et net, ça procure un certain bien-être. D'accord ? Mais si vraiment c'était de la nature du bonheur, si en essence cette expérience était du bonheur, plus j'en ferais l'expérience, plus la sensation plaisante devrait augmenter. Or, on avait vu la fois dernière que qu'est-ce qui se passe ? Un rujti, surtout au restaurant où on va, je vais vous dire, ça rigole pas. Hein, c'est la couche de fromage est comme ça et tout. Presque, ça déborde de l'assiette, pas une petite assiette. Cette expérience, si on la reproduit continuellement, elle se transforme en souffrance flagrante. Donc, on avait vu qu'il y a, un peu une période d'insatisfaction. D'accord ? Par exemple, on a faim. Je vais au restaurant avec Jean-Paul, on parle, on tchatche, il y a ce plat qui arrive, j'ai faim, un malaise, mal-être, un certain mal-être, non ? Une certaine insatisfaction. Je mange, il y a la diminution de ce mal-être, de cette insatisfaction, qui se traduit par une expérience de bien-être. D'accord ? Mais si je continue à reproduire cette expérience de manger, l'intensité du bien-être va diminuer pour même se transformer en de la souffrance. D'accord ? Donc, on voit bien que on recherche le bonheur, et bien souvent dans notre vie de tous les jours, pratiquement même tout le temps, on fonctionne à rechercher ce type de plaisir qui peuvent, au bout du compte, nous apporter qu'une seule chose, quoi ? La déception. Parce qu'on voit bien que leur nature n'est pas véritablement du bonheur. D'autre part aussi, en fait, de par notre conditionnement, même si une expérience pouvait toujours demeurer du domaine du plaisante, la nature impermanente de ce monde qui nous entoure fait que automatiquement cette situation va disparaître. Donc on va être obligé d'abandonner cette sensation plaisante. D'accord ? Donc là, on fait un examen un petit peu intellectuel. Mais il faut vraiment arriver à le retraduire dans notre vécu de tous les jours. Arriver à comprendre que cette recherche incessante du bonheur, du bien-être extérieur, de cette recherche des plaisirs, entre guillemets, des sens, d'accord ? Elle est déceptive. On dit déceptive en français ? En français ? Trompeuse, trompeuse. Ou non plus tout déceptif, dans le sens trompeuse, elle nous trompe. Décevante. Elle nous leurre, c'est un leurre, vraiment. On croit que ça va nous apporter quelque chose. Décevante. Et elle nous trompe complètement. Elle nous déçoit complètement. Ok ?
J'ai une question.
Oui. Fort.
Fort. Le bonheur, il est admis comme tel dès l'instant ou si la situation est répétée et n'engendre pas de souffrance, donc on considère que cette situation est bonheur. Que cette, je sais pas, une situation, un état, quelque chose, est du bonheur. C'est dans la répétition. Par exemple, je passe un moment avec quelqu'un, c'est un magnifique moment, le moment s'arrête, c'est bon, quoi, je ne suis pas demandeur pour recommencer cette situation, mais le moment a été bonheur. Est-ce qu'on peut l'appeler comme tel ?
Donc, je pense que le. En fait, là, il faut rester très. On n'a pas besoin de trop intellectualiser. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? C'est une sensation plaisante.
Oui, mais dès que tu parles de plaisir, on commence à partir dans la souffrance, puisqu'on.
Non, mais quand on est bien, tout simplement. Bien. Quand je dis j'emploie plaisir, mais dans le sens bien-être. D'accord ? Donc, Il y a la un petit peu la limite, c'est souffrance, mal-être physique ou mental, ou bien-être, plaisir physique ou mental. D'accord ? Notre problème, il est que on associe ce bien-être physique ou mental à une recherche extérieure qui dépend de ce qu'on appelle des sens. D'accord ? Les cinq sens, par exemple, visuel, auditif, gustatif, tactile. Moi, j'en ai plus quatre déjà. Visuel, auditif, le goût, gustatif, tactile, et puis après, il y a le sens aussi qui est lié au mental. D'accord ? Donc, on recherche uniquement, on pense que le plaisir dépend des objets extérieurs, d'accord, avec lesquels nos sens vont entrer en contact. Mais on a vu que, en fait, cette recherche, elle ne pouvait aboutir qu'à une déception, puisque la nature de l'expérience elle-même n'est pas de la nature d'un bonheur complètement stable, permanent, ultime. Ok ? Donc, après, on va même encore aller plus loin dans vraiment la compréhension de notre situation, d'être, par exemple, d'être humain, pour l'instant, sans rentrer un petit peu dans vraiment le concept bouddhiste. Nous sommes un être humain qui est constitué d'un corps, d'un esprit, qui dépend d'un certain fonctionnement mental, on va le voir. Et en fait, nous sommes le support parfait pour avoir à subir les types d'expériences de souffrance flagrante et ces expériences de bien-être qui sont de la nature, en fait, de ce qu'on appelle la nature, la souffrance du changement, qui ne peuvent pas, donc, expériences qui ne peuvent pas être perdurées perpétuellement dans un bien-être. Ok ? Ça, c'est notre réalité. Juste ce potentiel en lui-même, si on était capable de vraiment l'expérimenter en soi, maintenant, c'est une souffrance aussi. Et le Bouddha l'a appelé la souffrance omnipénétrante. D'accord ? Donc ça, c'est notre réalité. Et c'est une réalité qui n'est pas très agréable, en fait. Pas une situation qui est plaisante. Ok ? Donc, ça, c'est le premier point. Être vraiment conscient que nous sommes dans une réalité de souffrance. Et dans l'étude philosophique, en fait, cette réalité, on l'appelle la vérité de la souffrance. La première des quatre nobles vérités. Donc, ça, c'est le terme philosophique. Mais on voit bien que c'est notre réalité de la vie de tous les jours. D'accord ? Au mois de janvier, donc le week-end que nous avons passé ensemble, le dernier week-end que nous avons passé ensemble, on a aussi essayé de comprendre quelle était la cause de cette situation, de cette souffrance. La cause, c'était quoi ? La cause principale ? Quelle est la cause principale de la souffrance, de notre mal-être ? L'ignorance. Donc un certain fonctionnement mental. D'accord ? Une ignorance, on va regarder un petit peu plus clairement ce que c'est que cette ignorance, mais une ignorance qui entraîne d'autres processus mentaux, tels que l'attachement, la colère, l'orgueil, la jalousie. Tout ça, ça nous pousse à agir. Est-ce que vous êtes d'accord que dans notre vie de tous les jours, dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans votre vie de tous les jours, là, faites un examen personnel, eh bien, on fonctionne vraiment beaucoup sur cette base, ce fonctionnement mental, d'attachement, de colère, d'orgueil, de jalousie. Oui ou non ? Est-ce que vous êtes d'accord que donc il y a ces processus mentaux qui se mettent en place et qui nous poussent à agir ? Ouais. Donc ça, c'est notre manière de fonctionner qui est que bien trop fréquente. On va voir aussi maintenant le lien entre donc, ces situations déplaisantes, et je vous ai dit, apparemment là, il faut qu'on arrive à comprendre le mécanisme, comment ces états intérieurs, ces états mentaux, entraînent cette souffrance. extérieure. D'accord ? Cette souffrance physique ou cette souffrance mentale. Et c'est là que quand l'esprit est assez vaseux comme moi ce matin, c'est un exercice qui se complique un petit peu pour faire les liens entre nous. Mais donc on avait vu aussi au dernier week-end qu'on a passé ensemble que plus notre esprit était agité, plus il y avait un mal-être en fait. Que même tous ces facteurs mentaux, on les appelle comment ? Vous vous rappelez ? Perturbation mentale. Ouais. Pourquoi on les appelle perturbation mentale ? Parce qu'elles perturbent, elles détruisent la paix naturelle de notre esprit. Vous vous rappelez, non, qu'on avait pris cet exemple, vous vivez, moi je suis juste de passage, malheureusement, mais vous vivez dans un très beau pays qui s'appelle la Suisse. Vous savez, vous le saviez, non ? C'est pas, je vous l'apprends pas, c'est que ça. Et donc il y a un cadre de vie assez exceptionnel, les Alpes, le lac, etc. Et on avait parlé par exemple d'une expérience, week-end, quand vous avez un break, vous allez marcher dans la montagne et vous vous asseyez et l'esprit est complètement paisible. Il n'y a plus de présence de ces facteurs mentaux perturbateurs tels que l'attachement, la colère ou une forte saisine, une forte dualité intérieure, moi et le reste. Quel est votre état quand il y a cette absence de facteurs mentaux perturbateurs ? Un bonheur, un grand bien-être, un calme, non ? Par contre, dès que on va se mettre à conceptualiser, à générer une forte dualité, à générer un attachement, une colère ou d'autres facteurs mentaux, qu'est-ce qui se passe ? On détruit cette paix intérieure. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord que c'est vraiment notre fonctionnement de notre vie de tous les jours ? Oui ? On veut le bonheur, on ne veut pas la souffrance, mais on expérimente donc des souffrances extérieures flagrantes, physiques, mentales, d'accord ? On voit que notre fonctionnement mental induit de la souffrance. D'accord ? Oui ? Ensuite, maintenant on va faire donc le lien. Comment ce fonctionnement intérieur mental qui déjà détruit la paix naturelle de l'esprit va créer encore des souffrances à un niveau plus grossier. Okay, on avait pris des exemples flagrants la fois dernière. Vous vous rappelez un petit peu des exemples en suivant les facteurs mentaux perturbateurs tels que l'attachement, la colère. Ces facteurs mentaux, ils nous poussent à agir. Quels exemples on avait pris ? Des exemples vraiment flagrants. Des exemples mondiaux, internationaux. Par exemple, les guerres. Hein, je vous avais interrogé, je vous ai dit, est-ce que vous pensez vraiment que les guerres, elles proviennent donc d'un état intérieur d'amour et de compassion, de sagesse ? On avait vu que, qu'est-ce qui motive véritablement George Bush à aller... il faut que je choisisse des mots durs et bien, bien lourds, à aller exterminer, à aller torturer, à aller détruire complètement des familles, des êtres humains qui ne veulent que le bonheur. Est-ce que c'est l'amour et la compassion ?
Parce que c'est issu d'un peuple qui génère ce genre d'aversion, tout sentiment d'amour, compassion.
Donc, tu as employé peur, qui n'est pas forcément un facteur mental, mais après tu l'as associé avec cette peur génère la colère, l'aversion. Donc c'est l'aversion qui pousse à agir. Cette peur, très souvent, la peur, elle est basée sur quoi ? Sur l'ignorance. On ne connaît pas vraiment la chose, d'accord ? Donc il y a une ignorance. Cette ignorance, par exemple, nous pousse à avoir généré une certaine aversion, pensant que la chose extérieur peut nous nuire, donc on génère une peur peut-être, en tout cas une aversion, et on veut faire disparaître cette chose-là, d'accord ? Ça peut être aussi un intérêt économique, donc là, ces intérêts économiques par exemple qui auraient poussé George Bush à faire la guerre, fonctionnement mental c'est quoi ? Quel est le facteur mental qui est présent à ce moment-là ? L'attachement, vous êtes d'accord ? il veut obtenir quelque chose. Il pense que s'il obtient cette chose-là, ça engendrera un certain bien-être, un bonheur, prospérité matérielle, qu'il associe au bonheur. D'accord ? Donc là, on voit bien que ce processus mental, il est le moteur, il est ce qui motive à agir et à engendrer une très grande souffrance. Souffrance pour les Irakiens, souffrance aussi pour les Américains. Pour Bush, peut-être pas forcément trop d'une manière directe, mais par exemple, combien de familles américaines ont été détruites, par exemple, par la mort de leur enfant. Donc, je suis plus d'actualité, mais le nombre de soldats américains morts est déjà de 3000, il me semble. Hein ? 3200. Donc, un fonctionnement mental basé sur l'ignorance, l'attachement, la colère, qui pousse à agir et qui a des répercussions vraiment extérieures, très claires. Ça, c'est juste pour se passer du côté américain qui n'est pas peut-être le pays le plus touché. Par contre, côté irakien, là, les chiffres sont énormes. Je crois que c'est maintenant 250 000. Et essentiellement des civils. Hein. Donc, après, le bouddhisme va beaucoup plus loin. On va examiner un petit peu comment le monde apparaît. On va voir que le monde, même le monde extérieur, vraiment, a une relation directe avec notre manière de penser. Notre fonctionnement mental intérieur, d'accord ? Qui nous pousse à agir ? Vous voulez qu'on fasse ce petit examen de comment le monde apparaît ou pas ? Même la matière. Ouais ? Donc, si on examine un petit peu tout le monde physique extérieur, qu'est-ce que c'est ? Un point de vue physique assez subtil, c'est l'énergie, des particules d'énergie. Ouais. Je crois que d'ailleurs en Suisse, vous avez des accélérateurs de particules. Je crois que c'est un. On prend ne serait-ce que cet environnement, cette pièce, tous les meubles qui s'y trouvent, les livres, les objets sacrés, nous-mêmes. Point de vue physique, qu'est-ce qu'on est ? Tout est relatif, hein? Tout est relatif. La beauté, la laideur, ce serait aussi un sujet d'examen, ça dépend complètement de notre manière de percevoir. Donc, qu'est-ce qu'on est, Séverine? Qu'est-ce qu'on est? Donc, si on récapitule un petit peu dans l'ordre, la matière. Donc un niveau plus subtil, ce sont des molécules qui ne sont que des atomes, qui ne sont que des protons, des électrons, des neutrons, qui ne sont que des quarks. D'accord ? Et il y a donc cette danse de particules d'énergie. On pourrait se demander quelle est la force qui donc donne cette apparence après de ce corps d'être humain, le mien, le vôtre. Quelle est cette force qui crée ces différences entre les choses ? Là aussi, c'est une question qui est très difficile. Il est très difficile d'y répondre, mais elle est vraiment, en fait, essentielle. On parle de juste notre réalité, de ce que nous sommes. Et le bouddhisme dit, en fait, cette apparence, elle dépend complètement de notre manière de penser et des actions qui découlent de cette manière de penser. Donc, il y a un petit peu l'essence même du problème, elle se trouve dans l'ignorance. L'ignorance qui va croire que, par exemple, l'individu existe d'une manière complètement autonome, indépendante. Donc là, vous pouvez vous dire, encore une fois, c'est quelque chose de très intellectuel tout ça. Et là, je vous arrête tout de suite et je vous dis, là, les mots sont peut-être un petit peu intellectuels. Mais on ne parle que de notre vie de tous les jours. Votre expérience de la vie de tous les jours, vous êtes d'accord ? Il y a moi qui suis ici, puis il y a vous qui êtes de l'autre côté. On est deux choses complètement séparées, sans réfléchir, au niveau du vécu. Vous êtes d'accord ? Et bingo ! C'est là, quand on le retraduit avec les mots, c'est dualité.
on existe indépendamment. J'existe de manière autonome. Donc c'est des mots qui sont rébarbatifs, mais il faut bien comprendre qu'ils expriment une réalité qui est bien trop réelle et qui, le problème, fait qu'elle est la cause même de toutes nos souffrances. Là-dessus, sur cette base de dualité, il y a moi, il y a les autres. D'accord ? On va donc séparer les choses, et il y a des choses qui vont nous apparaître comme plaisantes. D'autres choses qui vont nous apparaître comme déplaisantes. On va vouloir saisir, obtenir les choses plaisantes. On va vouloir repousser les choses négatives. D'accord ? Il y a cette forte dualité, l'ignorance, l'attachement, la colère. Là-dessus, on agit. D'accord ? Au niveau des particules, le bouddhisme dit, il y a cette ignorance primordiale, d'accord ? Et toutes les actions qui ont été entre guillemets construites sur cette base mentale, d'accord, va en fait assembler ces particules d'une certaine manière et donner cette apparence qui est l'apparence de notre monde. D'un point de vue bouddhiste, on dit il y a un créateur effectivement du monde. Qui est ce créateur? Notre esprit. Donc à un niveau intellectuel, notre esprit, les Tibétains ils vont plus faire notre esprit. Parce qu'ils se réfèrent à quelque chose de beaucoup plus subtil. D'accord ? Et pour eux, le siège de l'esprit, l'aspect le plus subtil, se trouve au niveau du plexus solaire. Donc, par exemple, je vous dis ça parce que, vous voyez, moi, instinctivement, j'ai fait esprit. Par contre, Geshe Kempa Gyatso, quand il dit l'esprit, lui, il fait ça. Donc, parce qu'il se réfère à quelque chose de beaucoup plus subtil. Vous me suivez jusqu'à là un peu ? Ouais ?
Au début, c'était la démonstration. Oui. Déjà, on avait fait la dernière fois, on comprend qu'on est un amas de particules, etc. Mais la démonstration, pour ma part, c'est très personnel, c'est mon ressenti. Pour moi, ça m'a complètement ouvert les volets.
Oui.
Donc, ils se referment bien souvent. Hein. Enfin, il y a quand même des émanations de l'émanation. Et puis, dans ta démonstration, tu dis, mais d'où vient ce que nous sommes, en fait, et puis à un moment donné, par rapport à ce que tu expliques, on a l'impression qu'on referme de nouveau pour. Tu vois ? Est-ce que la démonstration ne s'arrête pas simplement à cette ouverture ? Est-ce qu'on a besoin de refermer pour redonner de nouveau une consistance à notre ignorance, quoi ?
Je suis content. En fait, là, on est en train d'examiner notre réalité. Mmh. D'accord ? Et on est en train d'essayer juste d'expliquer quelle est notre vie de tous les jours, qui est une vie de problèmes, de souffrances. Donc, je suis content de ton explication parce que ça montre que le message il est vraiment passé et que donc on comprend d'où vient cette lourdeur, cette comment dire enfermement. Mais ça c'est notre réalité. Et je suis content parce que donc le message, au niveau juste de l'expérience, quand on entend les mots, apparemment, si on analyse la réalité telle qu'elle est vraiment en essence, il y a une ouverture. Par contre, notre processus normal de la vie de tous les jours, c'est de s'enfermer complètement. Et de cet enfermement, de ce processus mental, il y a l'attachement, il y a la colère, etc., il y a la souffrance. Et le but du jeu, et il est effectivement de comprendre ce mécanisme et donc de remonter jusqu'à la source et de s'ouvrir et de demeurer dans cette ouverture. Mais là, on en est à la première étape, de constater juste notre réalité très fermée, très douloureuse, pour bien comprendre le mécanisme, bien voir est-ce que oui ou non c'est comme ça qu'on fonctionne, pour pouvoir aller jusqu'à la source et demeurer après, donc complètement tailler à la racine même le problème et demeurer dans cet esprit de sagesse qui comprend vraiment comment les choses sont en profondeur, en essence. Et le bouddhisme dit justement la libération, elle se trouve là. La libération, le bonheur, il ne se trouve pas dans cette recherche frénétique d'un bonheur, d'un soi-disant bonheur extérieur.
Juste dire, le bonheur se trouve dans la compréhension que tout est lié, qu'il n'y a pas de dualité.
Je n'ai pas besoin de répéter, tu l'as dit très bien. C'est ça.
Je trouve assez difficile. Parce que, effectivement, on aborde comme ça, ce qu'on voit, on est des êtres bien indifférents, chacun mène sa vie de la manière qu'il veut. C'est difficile d'aller au-delà de cette apparence qui est forte, qui paraît claire, cette apparence qui mène à moi, chaque autre est aussi différent de suivant. Alors, comment aller au-delà de cette perception grossière, mais qui finalement, la plupart des êtres ne voient que ça.
Donc en fait, j'essaie de suivre quelque chose de très méthodique. Parce qu'en fait, c'est une méthode qui est assez sûre. Donc le premier point, c'est prendre conscience de notre réalité. D'accord ? Ces apparences très dualistes, et de voir que ces apparences dualistes, ce fonctionnement, entraînent énormément de souffrance. Vous vous rappelez, en fait, le début de la session, on l'a commencé par une question. Pourquoi méditer ? On va méditer pour comprendre cette réalité, comprendre tout le mécanisme qui entraîne cette souffrance, et on va méditer enfin, après, pour agir sur ce fonctionnement et couper complètement la cause même de ce problème et développer donc, un état d'esprit qui va être libre. Cet état d'esprit va se transformer en un état même où on va être libre de ce fonctionnement, on va être libre de cette souffrance. Et dans le bouddhisme, donc on a parlé, là j'ai commencé à dire, à introduire cette notion des quatre nobles vérités. Donc, la première réalité, c'est on souffre. Ensuite, dans le bouddhisme, on dit donc on fait un lien très fort, un lien de cause à effet, d'accord ? Entre cette souffrance, elle provient de quoi ? De nos actions passées qui dépendent elles-mêmes d'un fonctionnement mental qui est basé sur cette dualité. La présentation bouddhiste va dire que vraiment le bonheur, qu'est-ce que c'est ? C'est cet état naturel, l'essence même de l'esprit, qui est paix, qui est au-delà de cette dualité. Comment accéder à cette paix, à cette vérité, ce qu'on appelle la cessation de la souffrance, en développant la sagesse qui comprend l'absence de dualité, qui comprend l'absence d'indépendance des choses. Pourquoi méditer ? Parce que justement, comme tu le dis, Jean-Michel, ces apparences extérieures, elles sont très fortes. Elles sont tellement fortes que pour nous, elles ne nous apparaissent pas comme apparences. Elles nous apparaissent comme réalité. C'est pour ça que quand je vous ai posé la question, je vous ai dit sans réfléchir intellectuellement, au niveau du vécu, vous êtes d'accord qu'il y a moi et puis il y a vous. Donc vous transposez ça pour vous-même. Il y a moi, vous, et puis il y a les autres. Et c'est extrêmement solide. Il y a cette très forte dualité. De cette très forte dualité, vous êtes d'accord, il y a cet attachement pour ce qui vous apporte le bonheur, ou ce qui vous pensez va vous apporter le bonheur, et la colère, l'aversion, on va commencer par l'aversion, pour ce qui entraîne de la souffrance. Vous êtes d'accord en même temps que vous avez déjà fait l'expérience qui est momentanée, c'est vrai, mais d'un état qui est libre de ses manières de fonctionner mentales, d'accord, qui sont libres momentanément de dualité, d'attachement et de colère, et c'est un état de grand bien-être, de grande paix. Cet état, en fait, de paix, c'est la nature essentiel de l'esprit. Et on peut y accéder à un niveau le plus profond d'une manière à ce que la racine du problème, cette ignorance qui crée cette dualité, ne pourra plus jamais réapparaître. Donc il ne pourra plus jamais y avoir l'attachement de la colère qui existe uniquement basé sur cette ignorance. parce qu'il n'y a plus cette ignorance, cet attachement, cette colère et tous les autres facteurs négatifs de l'esprit, il n'y a plus les actions qui dépendent de cet état intérieur. Et d'un point de vue bouddhiste, tout ça, ces deux choses, donc les aspects négatifs de l'esprit et les causes, sont le créateur de notre monde contaminé et donc sont le créateur de ces différents niveaux de souffrance. Ok ? Un niveau aussi, on avait vu la dernière fois, plus vraiment de l'expérience de la vie de tous les jours. On voit bien que notre manière de vivre, d'expérimenter avec notre manière de penser, d'accord, va vraiment influencer l'expérience extérieure. En fait, notre esprit, il va le retraduire comme plaisant ou désagréable. Une preuve pour ça, c'est que deux personnes vont faire exactement la même expérience extérieure. Pour une personne, ça va être l'enfer, pour l'autre, ça va être le paradis. Pourtant, extérieurement, il n'y a pas de différence. Et c'est juste l'interprétation. Une interprétation, il faut bien voir que là, ma manière de m'exprimer, ça se fait même à un niveau inconscient. On n'est pas conscient de cette interprétation. Mais c'est comme si on y avait un filtre, d'accord ? Et donc un filtre positif ou négatif. Et pour vous dire, c'est que les êtres qui ont donc énormément pratiqué, donc entre autres qui ont médité sur un petit peu les méthodes pour pacifier l'esprit, quand ils achèvent le but final, tout leur apparaît comme une très grande béatitude, une très grande félicité.
Quand tu dis tout, c'est quoi ? Tout ce qu'ils croient, des guerres et tout ça ?
Tout. Par exemple, un Bouddha, il est dit qu'un Bouddha, il n'expérimente qu'une grande béatitude. Toutes ces expériences au niveau donc d'objets mentaux ou extérieurs sont de la béatitude.
Peut-il être confronté à une grande souffrance, je crois, un enfant, sur qui un soldat a tiré, pour lui ce sera une béatitude.
Donc, après, quand on rentre vraiment dans l'analyse, c'est très très difficile de comprendre le fonctionnement d'un esprit pleinement éveillé. Mais donc l'unique expérience qu'un être éveillé peut faire, c'est de la grande béatitude. Après, il est pleinement conscient de ce que tout expérimente les êtres. C'est-à-dire que lui, il a une attitude d'éveil, de bien-être total. Mais il arrive à percevoir, par exemple, l'expérience de l'individu qui souffre. Et par un entraînement précédent, d'amour et de compassion illimité, il va tout faire pour libérer cet individu de la souffrance. Mais lui, il ne va pas vivre la souffrance.
Parce qu'il comprend les causes. Il comprend que si un enfant, par exemple, est né avec un handicap, il a sa cause du karma, etc. Et donc après, il agit pour éliminer la souffrance. Cet enfant, il comprend la cause dans le sens là, je pense que c'est qu'il expérimente la vérité.
Ben, il comprend complètement le fonctionnement, effectivement.
Il comprend le F, parce que c'est clair pour lui, la loi des causes.
Pourquoi lui, il n'expérimente pas la souffrance ? C'est parce que lui, l'individu qui est devenu par exemple un Bouddha, il a abandonné les causes de la souffrance. Donc il ne peut plus souffrir. Il faut bien voir que justement, on parle d'absence de dualité. Ça veut dire que le monde phénoménal, on dit ça en français, il dépend complètement de causes et d'effets. C'est un mécanisme d'interdépendance de causes et d'effets, d'accord ? Et que s'il n'y a pas une cause, il ne peut pas y avoir d'effet. L'être éveillé, il a abandonné la cause de la souffrance. Donc lui, en tant qu'être, on a vu la fois dernière que un être, il est constitué essentiellement de quoi ? De l'esprit, d'accord ? Qui s'incarne après au niveau du corps. Et l'esprit, en essence, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est clair et connaissant. Vous vous rappelez la définition qu'on avait donnée. Et on avait dit aussi, c'est l'expérience. C'est la nature de l'expérience. Donc, un être pleinement éveillé, il a toujours cet esprit qui est en nature, à la nature de l'expérience, qui est clair et connaissant, Mais il a abandonné toutes les causes de souffrance pour lui-même, donc lui, il ne peut plus souffrir. Il ne peut plus souffrir parce qu'il a abandonné cette ignorance, cet esprit de dualité, sur lequel se développe l'attachement, la colère, sur lequel se développent les actions. Et c'est ça qui entraîne l'apparence de souffrance. N'ayant plus la cause, il ne peut plus expérimenter l'effet. Et après, donc, une des particularités du Bouddha, vraiment, c'est qu'il a développé un amour et une compassion illimitée, il a développé des moyens habiles illimités pour venir en aide aux êtres, sans jamais se départir de cette grande félicité. D'accord ? Et en fait, d'un point de vue bouddhiste, plus on y réfléchit, plus la souffrance, elle a de très peu de choses à voir avec l'extérieur. Mais c'est surtout avec la qualité de l'esprit. Hein, on pourrait dire le degré de contamination de l'esprit. Pourquoi méditer ? Donc vraiment là, on répond à la question du début de la session. C'est on médite pour comprendre juste notre réalité. Et essayer de le comprendre au niveau plus profond, le plus subtil possible. Et basé sur cette compréhension, après, c'est prendre maîtrise petit à petit de notre esprit, du fonctionnement de notre esprit, pour créer uniquement des causes de notre bien-être et du bien-être des autres. Donc,
j'ai appuyé sur stop et tu le refais.
Donc, pourquoi méditer ?
Bien, quelqu'un d'autre va le répéter pour voir.
Qui c'est qui veut répéter ?
On médite pour comprendre notre réalité, prendre maîtrise de notre esprit pour créer des causes de notre bien-être.
Donc, basé sur la compréhension de notre réalité, donc on prend vraiment conscience de notre réalité et de ce qui génère cette réalité. Parce qu'on comprend, on va pouvoir voir où est-ce qu'on peut agir pour changer cette réalité. Donc, on comprend que notre bonheur, notre bien-être ou notre souffrance, il dépend de notre attitude mentale. Donc, la méditation va nous permettre de prendre conscience de ce qu'est notre esprit, des différents fonctionnements mentaux que nous avons, et d'agir sur ces fonctionnements mentaux, d'abandonner les fonctionnements mentaux qui entraînent de la souffrance. Au contraire, développer les attitudes mentales. Donc aussi, quand je dis mental, il faut bien voir que c'est, d'un point de vue bouddhiste, on parle aussi, encore une fois, penser à ce que mon maître Geshe Jampa Gyatso dit, c'est aussi qualité du cœur. Hein. C'est pas seulement un processus intellectuel, c'est aussi vraiment ce qui se passe au niveau du cœur. Donc, on va prendre conscience de tous ces mécanismes et développer les attitudes de cœur et mental qui entraînent le bonheur pour nous-mêmes, pour les autres. Et la dernière fois, on avait parlé de la précieuse renaissance humaine. En tant qu'être humain, on a un esprit, et en tant qu'être humain, on a un potentiel extraordinaire. Et cette vie, on peut l'utiliser à quoi ? On peut l'utiliser à justement vraiment comprendre tout ce monde, tous ces mécanismes, et on peut l'utiliser pour complètement détruire les causes de la souffrance. Nos propres causes, mais aussi, de manière indirecte, les causes de la souffrance d'autrui. Et en fait, si on réfléchit un petit peu tous les jours de cette manière, ça donne une très grande force intérieure et ça donne un très grand sens à notre vie. Par exemple, c'est ce que tu disais dans la réponse sur la précieuse renaissance humaine, non ? C'est la précieuse renaissance humaine, c'est un potentiel extraordinaire, on a une opportunité extraordinaire de développer des qualités intérieures d'amour, de compassion, de sagesse. Et en fait, le but de la méditation, c'est d'arriver à transformer notre être complètement pour que toute notre vie, elle soit en fait uniquement dédiée à cette recherche, à cette transformation intérieure, pour abandonner complètement les causes de la souffrance pour nous-mêmes et les autres, et au contraire, développer toutes les causes de bonheur pour nous-mêmes et les autres. Et après, en fait, si on réfléchit comme ça, très naturellement, on va pouvoir développer ce qu'on appelle le renoncement, dans le sens où en fait on va pas avoir tellement d'intérêt pour les choses de ce monde qui sont trop souvent le, comment on dit, life motif, un petit peu l'aspiration, ce qui aspire les gens, par exemple, avoir une réussite sociale, ou une maison, une voiture, une famille, ou quoi que ce soit, tout ça, c'est complètement balayé d'un revers de la main. Et l'unique chose qui nous intéresse, c'est comprendre notre fonctionnement intérieur, abandonner l'esprit de dualité, d'attachement, de colère, d'orgueil, de jalousie, au contraire, développer la sagesse, développer l'amour, la compassion, et développer toutes les qualités qui vont nous permettre d'accroître ces qualités intérieures en nous-mêmes, mais aussi de le transmettre aux autres. Donc là, je pense que on a répondu d'une manière assez satisfaisante sur pourquoi méditer. Ça vous semble être satisfaisant ou pas comme réponse pourquoi méditer ? Et encore une fois, c'est un des points tellement clés pour vous dire, hein, chaque jour, je passe une demi-heure à réfléchir et à vraiment essayer de m'imprégner complètement de cette réflexion et de générer cette très forte aspiration, de me dire, j'ai cette opportunité extraordinaire maintenant de vraiment comprendre un petit peu tout ce mécanisme, d'agir sur ce mécanisme et de vraiment apporter une réponse très profonde, définitive au problème. Je vais donc m'atteler vraiment à cette transformation qui s'effectue par la méditation. Ma vie, cette journée, je vais l'utiliser à cette fin. Donc après avoir répondu à pourquoi méditer, la question suivante, eh bien, c'est tout simplement le titre que le FPMT a donné à ce module. Ce module, c'est comment méditer. Donc là, on va se baser un petit peu sur la trame qui est présentée dans le livre. Donc après, à tête reposée, vous pourrez lire un petit peu cet ouvrage et avoir des compléments d'informations. Donc traditionnellement, il y a dans comment méditer, il y a la préparation à la méditation, il y a la méditation proprement dit, et il y a la conclusion. Et puis il y a la période après la méditation. Peut-être on va commencer par se dire, qu'est-ce que c'est que la méditation ? Bien souvent, on a des idées un peu on a des préconçues qui ne sont pas forcément justes. Un petit jeu, voilà, j'aime bien les jeux. Qu'est-ce que c'est que la méditation ? Soyez pas timide.
C'est entraîner son esprit.
Entraîner son esprit. C'est intéressant quand même.
Entraîner l'esprit, être pas de conscient, d'être du moment présent, observer notre pensée. C'est pas de l'idée de pensée.
D'autres propositions ? Non ? Parce que souvent on a cette idée préconçue dans la méditation, c'est s'asseoir dans une certaine position et puis on ne sait même pas quoi faire. Quoi. Mais on associe méditation à une certaine posture assise, etc. Et puis il y a des fois, parfois, même des gens qui disent c'est se concentrer sur rien, faire le vide, quoi que ce soit. Dans les manuels, par exemple, tels que le Lamrim, méditation, c'est se familiariser avec la vertu. Familiariser avec la vertu, pourquoi ? C'est la vertu est source de bonheur. On recherche le bonheur, on ne veut pas la souffrance. Donc on médite, tout simplement, on crée les causes de notre bonheur. Donc là, c'est une définition qui, en fait, on voit, est extrêmement ample. Et qui nécessairement va impliquer une multitude de formes de méditation possibles. C'est-à-dire on peut faire la vaisselle et méditer en même temps. À partir du moment où on essaie de générer un état d'esprit positif, qui est source de bonheur futur, c'est une méditation. D'accord ? Ce qui est sûr, c'est que pour se familiariser avec la vertu, naturellement, spontanément, on n'est pas forcément très habile à développer des états d'esprit vertueux. Donc on va prendre un temps où on va créer un environnement, créer une pratique qui va favoriser le développement de ces attitudes vertueuses. Donc, on va entreprendre des sessions de méditation plus conventionnelles, dans le sens de méditation, dans le sens conventionnel de ce qu'on entend, c'est-à-dire s'asseoir, etc. Dans le bouddhisme tibétain et dans le contexte du lamrim, donc il y a la méditation, se familiariser avec la vertu, on va s'aider de sessions formelles, voilà, sessions de méditation formelle, qui vont débuter par la préparation à la méditation, qui est quelque chose d'assez important. Et en fait, si vous regardez dans le chapitre 6 du bouquin, la préparation, c'est ce qui prend, je pense peut-être plus des deux tiers, trois quarts du commentaire. Vous voyez donc d'où l'importance de la préparation à la méditation. Cette préparation, elle est subdivisée en 6 pratiques préparatoires. Donc après, on va voir si on va plus ou moins dans les détails, selon ce que vous désirez. La première pratique préparatoire, c'est nettoyer la pièce où on va méditer, arranger un autel avec les représentations du corps, de la parole et l'esprit d'un bouddha. Donc dans votre livre, vous pouvez voir page 62, non ? Les pratiques préparatoires, un premier point. Nettoyer le lieu de méditation. Donc après, il y a, comment on dit outline ? Paragraphe. Donc il mentionne les 6 paragraphes et après il explique plus en détail un petit peu chacun de ces paragraphes. Après, Geshe Thupten Loden, il explique qu'il y a des grands avantages qui sont cités par le Bouddha dans les sutras sur les bienfaits de nettoyer l'environnement dans lequel on va méditer. Hein. Donc page 63, vous voyez, il y a l'esprit devient clair. L'esprit des autres aussi devient clair. Cela plaît aux divinités. Sont aussi des causes pour la beauté future, avoir des belles apparences. Et c'est une cause aussi pour prendre naissance dans des terres pures. Donc il y a des bienfaits, ce sont des bienfaits qui sont cités par le Bouddha lui-même dans les sutras, qui sont un petit peu difficiles pour nous de vérifier. Mais les deux premiers points, c'est vrai que si on rentre, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dans des dojos zen ou des jardins zen qui sont très propres, on rentre dans ces espaces qui sont très propres, il y a une sensation de clarté, d'espace. Donc de nettoyer, de bien arranger, va déjà inspirer l'esprit, va formater un petit peu presque l'esprit, va lui donner une prédisposition favorable à la méditation, spacieuse, détendue. Par contre, je ne sais pas, peut-être que vous êtes rentré chez quelqu'un qui est extrêmement désordonné. Vous rentrez par exemple dans son appartement, il y a une sensation de confusion. Oui ou non ? Donc, là, tout est objectif, hein. Objectif. Relatif. On a différents degrés de ce qu'est la clarté, ce qu'est la propreté, ce qu'est le désordre, la confusion. Mais par rapport à votre propre expérience, par rapport à votre propre degré, d'accord, de propreté et de confusion, vous rentrez dans un lieu que vous considérez comme étant propre, ordonné, vous allez générer spontanément plutôt une attitude détendue, de clarté. Par contre, si vous rentrez chez quelqu'un qui est extrêmement bordélique, il y a une pesanteur, une confusion qui s'installe. Donc, de préparer, nettoyer l'environnement dans lequel vous allez méditer va avoir tendance à générer cette attitude mentale spacieuse et détendue. Si d'autres personnes viennent chez vous, ça va avoir cette même tendance. Donc après, dans le sutra, il parle des divinités. Donc encore une fois, là, je remets l'accent là-dessus, c'est d'un point de vue, le Bouddha lui-même, il a dit, il ne faut jamais juste accepter les choses avec une foi aveugle. Donc, quand vous êtes confronté à ce genre de choses, on ne vous demande pas de les accepter telles quelles. Si ça vous pose un petit peu un problème, vous mettez le point de côté. Et après, à force de réfléchir un petit peu à l'ensemble de la présentation bouddhiste, on arrive à un petit peu à construire et à trouver des réponses logiques, tout à fait logiques, qui nous conviennent, et à accepter ces choses-là. D'accord ? Mais le Bouddha lui-même, il a dit, on essaie de comprendre la réalité, d'examiner la réalité. On n'essaie pas de créer quelque chose qui n'existe pas. On essaie de prendre conscience de notre réalité, de notre fonctionnement, et de voir qu'on peut agir sur cette réalité et passer au-delà de la souffrance. Donc là, on n'est absolument pas dans une tentative d'endoctrinement, d'accord, ou de créer un monde imaginaire. On essaye de prendre contact avec la réalité. Donc dans le bouddhisme tibétain, il faut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont un peu étrangères. Il ne faut absolument pas... Il y a certaines personnes qui vont dire il faut que vous les acceptiez telles quelles. Si vous voulez, là je peux pas faire cet exercice directement, mais je pourrais vous trouver les dires du Bouddha ou des commentaires de grands sages sur les dires du Bouddha où le Bouddha dit il ne faut pas accepter les choses telles quelles, il faut les examiner, et parce que vous les examinez, vous voyez leur validité, vous les acceptez. D'accord ? Par exemple, dans le bouddhisme général, on parle des renaissances. Le fait qu'on prend renaissance encore et encore. Et on prend renaissance dans différents mondes. Vous vous rappelez, on avait parlé des six mondes la fois dernière. Les enfers, les mondes des dieux. Il ne faut pas juste l'accepter comme ça. Il faut voir, analyser, voir est-ce que oui ou non, il y a une approche logique, valide, pour une telle présentation. Ok ? Donc là, on parle de divinité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion, mettez-la juste de côté. Dakodak ? Ah, c'est bien, là je peux dire Dakodak parce que souvent quand je parle avec des Anglais, je dis Dakodak, mais ils ne comprennent pas. Parce que pour moi, ça ne semble pas forcément trop français. Dakodak, c'est plus un truc... presque un petit peu universel, non, mais c'est pas universel. D'accord. Alors, on a vu le premier point, nettoyer vraiment l'environnement. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire ? Ouais, hein, pour détendre un peu, parce qu'il y a beaucoup d'informations. L'histoire, vous la retrouvez, il y a quelques variantes, parce que j'ai pas reçu le même lignage, non. C'est que les histoires, ça dépend de qu'est-ce qu'il la raconte, il y a toujours quelques petites variations. Mais l'essence de l'histoire, elle est aussi dans le bouquin. Donc c'est l'histoire, une histoire vraie, hein. C'est pas du pipeau, quoi. C'est une histoire qui se passait à l'époque du Bouddha, Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha historique. Et il y avait un petit garçon qui s'appelait Lamchung. Non, je me rappelle plus de la traduction de son nom, Lamchung. Je crois que c'est le petit. L'âme, c'est le chemin, et Chung, c'est le petit. Donc le petit chemin. Et ce petit garçon, il n'était pas brillant. Il était franchement, voire même un peu neuneux, le pauvre. Et il était tellement neuneux que ses parents l'ont envoyé à l'école, mais les professeurs à l'école, les maîtres à l'école, ils ne savaient plus quoi faire parce qu'ils essayaient de lui enseigner. Mais il n'arriva à rien apprendre. Rien apprendre. Il était neuneux, d'autres termes, il était apparemment très stupide. Donc les maîtres, ils ont les parents, ils ont dit, pas garder l'Amchung à l'école, il arrive à ne rien apprendre. Donc, les parents étaient assez ennuyés, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer chez les brahmanes, brahmines, dans la tradition hindoue. Alors, les parents envoient le petit Lamchung chez les brahmines, et les brahmines, ils avaient comme méthode d'apprendre les Védas, mémoriser les Védas. Donc, ils ont essayé d'apprendre un petit peu la doctrine hindoue au petit Lamchung, rien à faire. Il faut, pas de chance pour lui, t'es bête, vraiment rien à faire. Au bout d'un moment, les brahmines, ils ont dit, bon, laisse tomber. Ils ont pris le petit, ils l'ont apporté à papa-maman, et on ne peut pas le garder. Il n'y a aucun espoir. On a tout essayé, ça ne marche pas. Alors les parents, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire, ce pauvre petit Lamchung? Ils se sont dit, il y a son frère et son frère aîné, qui est un moine extrêmement brillant, grand scolaire, aussi grand méditant, grande sagesse intérieure. On va demander à son grand frère de n'en prendre qu'au soin. C'est là qu'il y a une petite variante dans l'histoire. Et son frère, très très bien, donc Lamchung, il prend l'ordination. Et puis son frère, il essaie de lui enseigner les sutras. Encore une fois, rien à faire. Pour vous dire, c'est donc là aussi, dans la tradition bouddhiste, il mémorisait un petit peu les sutras, les textes. Lamchung, il partait dans les collines pour mémoriser les textes que son frère lui avait demandé d'apprendre. Et donc il était entouré des bergers, des petits, souvent les bergers, les vachers, c'était des petits enfants indiens. Et lui, il récitait le texte, donc il lisait la première partie, il essayait d'apprendre la première partie, il passait à la seconde partie. Dès qu'il passait à la seconde partie, la phrase, il avait déjà oublié la première partie. Pour vous dire, à la fin, tous les petits bergers et les vachers, ils avaient mémorisé le texte. Et lui, rien. Rien. Et donc, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et son grand frère, il en perd la tête. Très grand érudit, très grand méditant, qui est extrêmement habile à enseigner, rien à faire. Donc, son grand frère, il le chasse, il dit, je suis désolé, je peux rien pour toi, je peux vraiment rien pour toi. Je sais pas. Vraiment là. Donc le Lamchung, il est complètement déprimé et il part tout seul et il pleure et sur le bord de la route comme ça. Et Bouddha Shakyamuni, il voit que c'est le moment d'agir. Donc il arrive. Et bien qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Lamchung? Bon, peut-être qu'il parlait pas comme ça, mais bon, c'est pour le rendre un peu plus vivant. Donc Lamchung, il raconte toute son histoire. Puis Bouddha, il regarde. Je pense qu'il y a une solution. Il dit, t'es capable donc il y a deux variantes. Il y en a une qui dit de nettoyer un peu les chaussures. Oui. Il dit, bon, tu vas prendre soin, mais il va nettoyer les chaussures un petit peu de tous les moines. Lamchung fait ça. Et puis, quelques temps après, le Bouddha, il dit, bon, maintenant, tu vas prendre un balai et tu vas balayer la cour du monastère. D'accord? Et en même temps que tu balayes, tu vas dire la petite phrase qui se trouve à la page 64. Ah non, c'est pas ça. Non. Et il dit une petite phrase donc, qui dit j'abandonne la poussière, j'abandonne les stains, les taches. D'accord? Donc le Bouddha lui dit, quand tu balayes, tu dis j'abandonne la poussière, j'abandonne les taches. Et tu balayes. Tranquillement. Il dit, t'es capable de faire ça?
Lamchung, il dit,
ah oui. Lamchung, il est tout content, parce que finalement, il arrive à faire quelque chose correctement, etc. Donc, il est très très content. Et puis, il balaye. Et le Bouddha, c'était un être exceptionnel, donc il avait un petit peu des pouvoirs spéciaux. Et Lamchung, il balayait une partie de la cour. Quand il attaquait la deuxième, le Bouddha, par ses pouvoirs spéciaux, il remettait plein de poussière, de saleté sur la première partie. Donc le Lam Chung, je vous dis, il a balayé. Hein. Et il était tranquille, il était tout joyeux parce qu'il arrivait finalement à suivre les conseils que donc, les maîtres lui avaient donnés. Alors, c'était pas un problème pour lui. Il finissait balayer la cour, il voyait que le début de la cour était de nouveau sale, et il balayait. Et il continuait à répéter, j'abandonne la poussière, j'abandonne donc, les saletés, oui. Les saletés, oui. Les tâches. Et il continuait, continuait, puis jour après jour, il récitait ça, puis... En fait, sans s'en apercevoir, il se mettait à réfléchir sur la signification de ce qu'il répétait. Et à un moment, il se dit, ah, mais en fait, quand il dit abandonner la poussière, abandonner les tâches, il ne se réfère pas à la poussière et aux tâches extérieures. Il se réfère à la poussière et aux tâches intérieures. Et oui, il s'est mis à contempler la signification de ce qu'étaient les poussières intérieures, les tâches intérieures. Et il a compris, en fait, que ça renvoyait à les tâches et la poussière qui n'étaient rien d'autre que les perturbations mentales et le karma qui découlait de ces perturbations mentales et toutes ces empreintes qui étaient lâchées par, délaissées par ces perturbations mentales et le karma. Et donc, il a continué à balayer en récitant, entre guillemets, ce mantra, mais sa compréhension de ce mantra ne faisait que s'approfondir de plus en plus. Et en fait, en faisant ça, il a réalisé la nature réelle des phénomènes, il a développé la sagesse qui réalise la vacuité, il a abandonné toutes les perturbations mentales, tous les karmas contaminés et toutes les empreintes. Et en fait, il est dit que par la suite, le Bouddha a vu que Lam Chung était prêt, qu'il avait abandonné donc toutes les fautes, et qu'il était prêt à partager un petit peu et à guider les aides pour en faire de même. Et il est dit que Lam Chung est devenu l'érudit et le disciple du Bouddha qui était le plus habile à guider les êtres pour abandonner donc, les perturbations mentales et les fautes. D'où, en fait, cette petite histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand on passe l'aspirateur à la maison ou qu'on fait la vaisselle, on peut vraiment le faire d'une manière toute bête. D'accord? Ok, j'ai nettoyé. Pas trop mal. On peut le faire d'une manière négative en générant énormément d'attitude mentale. C'est toujours moi qui fais la vaisselle, pourtant je lui avais demandé si vous êtes, par exemple, vous vivez en couple, ou même, juste, j'en ai marre de faire la vaisselle si vous êtes tout seul, vous générez une attitude d'aversion, qui n'est pas une attitude mentale qui va entraîner du bonheur, d'accord? On peut prendre ce moment comme vraiment une méditation, c'est-à-dire se familiariser avec la vertu, et par exemple, se familiariser avec la compréhension qu'on a de notre monde, d'accord, voir que donc ces attitudes négatives telles que la colère, l'attachement, etc., entraînent de la souffrance, et que en lavant l'assiette, on imagine éliminer notre attachement, notre colère, notre ignorance. Quand on passe l'aspirateur, on imagine nettoyer, se purifier de ces perturbations mentales, d'accord. Et là, ça devient une méditation. Et donc, un fait vraiment historique, c'est qu'il y a même un individu, en faisant ça, il s'est libéré de toutes les souffrances. Donc là, c'est une petite histoire, c'est sympa, non? Mais il faut essayer de la retraduire avec notre expérience de la vie de tous les jours. On est plein de problèmes, non? Sauf si vous avez de la chance, peut-être que vous n'en avez pas trop. Mais d'une manière générale, on a beaucoup de problèmes dans la vie de tous les jours, non? Ne serait-ce que, je ne sais pas... Par exemple, Susanna, peut-être qu'elle a pris le train et qu'il y a quelqu'un qui l'a bousculé ou quoi que ce soit. Et on vit mal intérieurement. En faisant ces méditations, on peut vraiment créer les causes pour passer au-delà de tous nos problèmes de notre vie quotidienne, de toutes nos souffrances de la vie quotidienne. Donc, méditation, première chose à faire, on nettoie la pièce, le lieu où on va méditer. Donc là, par exemple, ce serait le moment où, logiquement, on devrait tous se lever, et puis on va prendre l'aspirateur, on va prendre le pchit-pchit pour nettoyer le bois et tout. Donc je rigole. Deuxième point, toujours dans cette partie, donc la page 62, donc nettoyer le lieu de méditation, et sur l'autel, donc on a un autel ici, on met les représentations du corps, la parole et l'esprit du Bouddha. Le corps, il est symbolisé par quoi ? Par une statue, une image, une tanka. Donc là, il y a la statue, il y a la tanka. Il n'y a pas de photo.
Les petits blancs, comme on a les petites statues blancs,
tsatsa.
Comme on a reçu, ça s'appelle. Ils sont pas des tsatsa.
Tsatsa.
Ce sont des tsatsa.
Tsatsa, oui. Donc c'est juste une représentation, je crois que c'est plus de la tradition tibétaine. Il y a une pratique préliminaire où on peut faire, par exemple, 100 000 représentations de Bouddha. Donc ils utilisent du plâtre avec un moule, et puis donc, ils mettent le plâtre, ils coulent le plâtre liquide dans ces moules, avec toute une des prières, des visualisations, etc. Et ces petites statuettes sont appelées tsatsa. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a les 21 Tara, il y a Chenrezig Nyingma, il y a la Tara vert, et il y a deux statuettes de la Matsongkhapa, Donc sur votre hôtel, d'une manière, ça c'est très traditionnel, la Maïché dit après votre hôtel c'est votre hôtel, donc vous l'arrangez un petit peu tel qui vous inspire vraiment. Mais après, dans les manuels des grands maîtres de la tradition tibétaine, ils disent au centre une représentation du Bouddha Shakyamuni, une tanka, une photo ou une statue. Moi, je vais vous dire, pour que ce soit vraiment efficace pour votre esprit, c'est par exemple, même peut-être vous-même vous n'êtes pas bouddhiste, ou vous connaissez des gens qui ne sont pas bouddhistes, il faut mettre une représentation d'un être, d'une manifestation qui vous inspire les qualités d'amour, de compassion et de sagesse illimitées. Là, par exemple, il y a une photo de Marie avec Jésus. Ouais. Donc, si c'est ce support pour vous qui signifie l'amour, la compassion illimitée, la sagesse illimitée, il faut la mettre. Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est pas devenir, entre guillemets, bouddhiste, un bon bouddhiste, avec faire toutes les choses telles qu'elles sont écrites dans le livre bouddhiste. Non, non. Ce qu'on essaye de faire, c'est développer cet amour illimité, cette compassion illimitée, cette sagesse illimitée. D'accord ? Donc d'un point de vue bouddhiste, on retraduit ça au niveau du corps, sous l'apparence, par exemple, du Bouddha Shakyamuni, qui était le maître ou l'être physique qui, dans notre monde, est venu et a enseigné cet enseignement. Mais on peut voir que, par exemple, dans d'autres traditions, il y a des très grands saints, ou des êtres exceptionnels, tels que Jésus-Christ, tels que Saint François d'Assise, etc., d'accord, qui ont donné un message d'amour et de compassion illimité. Et peut-être que pour vous ou quelqu'un d'autre, ça va vraiment être la source d'inspiration. Donc l'autel, il est fait pour créer une connexion entre ces qualités extrêmement belles et infinies, et on leur donne un petit peu, on les matérialise un petit peu, d'accord ? Donc ne vous limitez pas forcément donc juste aux aspects bouddhistes. Donc après, dans les textes, ils disent d'abord la représentation du corps, ensuite la représentation de la parole, qui va être représentée par un texte, d'accord, et de l'esprit, qui va être représenté par un stupa, ou on peut aussi mettre une cloche, une petite cloche. Donc, il est dit traditionnellement que le texte, il est à la droite du Bouddha, la statue du Bouddha. D'accord. Donc texte, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Un texte tel que par exemple le Sutra du cœur, en tibétain, en sanskrit, en français, en chinois, en ce que vous voulez. Bien voir aussi que donc, ce ne sont que des symboles, mais il faut que vous passiez au-delà du symbole et voir la signification profonde qui est contenue dans ce symbole. D'accord. Donc toujours pensez bien aux qualités qui sont incarnées par ce symbole.
Juste placé à droite pour nous ou
pour le Bouddha.
Voilà.
par exemple, à la droite, gauche. Donc, si, quand vous méditez, généralement on médite face à l'autel, donc c'est à notre gauche,
là,
il y aura le texte, et là, il y aurait la représentation de l'esprit du Bouddha, qui est soit donc un stupa, soit une cloche, etc. Aussi, après, il dit que votre hôtel ne doit pas être trop bas. Donc, il y a, dans la tradition tibétaine, ils disent un signe de respect, c'est de mettre les choses toujours un petit peu élevées. D'accord ? Donc après, souvent, même d'une manière générale, quand vous méditez, des fois on ouvre un petit peu les yeux, non ? Et puis on peut chercher l'inspiration en regardant juste un petit peu l'autel. Et donc vous pouvez le mettre un petit peu par rapport au niveau de vos yeux, de votre regard. Donc en fait, ça fait plus ou moins, ça peut faire, si vous êtes assis, ce niveau-là. Mais après, donc, les Tibétains sont toujours très très pratiques. D'accord ? Ce qui prévaut, c'est l'attitude intérieure. Donc le respect intérieur. Et vous faites avec ce que vous avez. Quoi. Tout simplement. Et encore une fois, là je vous dis, je vous donne une présentation traditionnelle, mais ne vous limitez pas, ne vous sentez pas contraint de suivre cette manière traditionnelle. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, encore quelque chose de très traditionnel, il y a arranger les offrandes. Donc dans votre livre, c'est sur l'autel placer harmonieusement des offrandes pures, c'est page 65 et suivante. Et une fois, ça m'avait beaucoup aidé des fois, hein, comme quoi on trouve les réponses pas forcément là où on les attend. Je regardais un film indien, Bollywood.
C'était un film de Hollywood, mais avec un acteur indien, qui s'appelait, je crois, Le Gourou.
Peu importe, une comédie. Et j'ai vraiment été frappé parce que, vous voyez, non, là, ils sont vides parce qu'on a justement laissé pour, si vous êtes intéressé à savoir comment, par exemple, FPMT, il donne une petite méthode pour faire les offrandes sur l'autel. Plus tard, vous voulez qu'on le fasse ou pas ? Qu'on fasse ensemble les offrandes comme ça vous donne une idée de comment traditionnellement les Tibétains font les offrandes. Donc je continue ma petite histoire, je regardais ce film et vous voyez qu'il y a des bols là, donc ils sont vides, mais après on va mettre de l'eau, donc on peut mettre de l'eau safranée, etc. Et chaque bol symbolise donc une offrande, de l'eau pour laver les pieds, de l'eau à boire, ensuite il y a les fleurs, il y a l'encens. Ensuite, il y a du parfum, la nourriture et la musique. Et pour nous, c'est un peu étrange, non ? Ces offrandes, on n'est pas habitué à faire ce genre d'offrandes. C'est juste quand on devient bouddhiste dans la tradition tibétaine qu'on devient familier. Mais j'étais fort surpris parce que je regardais ce film. Et donc, ce jeune Indien, il partait aux États-Unis. Et donc, il quittait son petit village natal d'Inde. Et au moment de son départ, il y a sa mère qui est arrivée avec le plateau et toutes les offrandes comme ça. Donc il faut bien voir qu'en Inde, vraiment dans la culture, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours de faire ces offrandes-là. Quand on fait des offrandes à quelqu'un, on fait ces offrandes-là. Quand en Inde, on reçoit un ami, l'Inde, j'y suis jamais allé, mais j'ai entendu dire que c'est dans certaines régions, ça peut être très très poussiéreux. Quand on recevait quelqu'un, la première chose qu'on faisait, c'est on lui lavait les pieds, on lui offrait de l'eau et on lui lavait les pieds. Même dans certaines maisons, c'était là, par exemple la maîtresse de maison, une servante arrivait et versait de l'eau sur les pieds pour dépoussiérer les pieds. Ensuite, on donnait de l'eau à boire. Ça, les guirlandes de fleurs dans pas mal de cultures, par exemple à Tahiti ou à Hawaï, etc., il y a un signe de bienvenue, on vous offre des guirlandes de fleurs. Donc là, pareil en Inde. Il y avait aussi, ils mettaient de l'encens dans la maison, pour donner un bon parfum dans la maison, des offrandes de lumière, de clarté, ils appliquaient des onguents et des parfums sur le poitrail, chose qui nous est tout à fait familière. Par contre, ils offraient à manger, des mérinés les plus délicieux, et enfin un petit peu de musique. Et on pourrait faire l'équivalent par rapport à notre culture, hein. C'est on fait des dîners. Quand on soit quelqu'un surtout qu'on aime bien, d'accord, on prépare tout bien, on crée une atmosphère. Donc par exemple, on s'assure que, pas comme dans ma maison, qu'il fait bon, chaud. On prépare, on dresse la table, on cuisine, on met de la musique, même par exemple un petit rendez-vous galant, qu'est-ce qu'on met? Les bougies, d'accord? Vidéo ici, mais même hein, maintenant il y a les petits trucs, même des bougies parfumées ou des diffuseurs de parfums, etc. Ou même il y a des encens qui sont très très bons. On brûle un bâton d'encens, on crée une atmosphère pour que la personne se sente le plus à l'aise. Et donc là, c'est bien voir que tout simplement c'était vraiment la manière naturelle de recevoir quelqu'un et de faire les offrandes à quelqu'un. Donc le bouddhisme, il a son origine, ça vient d'où? De l'Inde. Donc les offrandes qui étaient faites traditionnellement quand on recevait quelqu'un, on les fait aussi à donc l'être qu'on estime le plus, et on essaie de faire les plus belles offrandes possibles à cet être. D'accord? Donc après, le bouddhisme, il a été entre autres, il s'est répandu au Tibet, et les Tibétains, ils ont gardé un petit peu cette tradition. Et maintenant, cette tradition nous arrive. Et puis, en fait, là encore, il ne faut pas se limiter à cette manière. Et si vous vous sentez plus à l'aise à faire quelque chose qui est plus en connexion avec votre manière d'être, votre culture, il n'y a absolument aucun problème. Parce qu'on va voir que le but de ces offrandes, c'est de créer une énergie extrêmement positive. D'accord ? Donc si on crée cette énergie positive en s'inspirant de notre culture, il n'y a absolument aucun problème. Bon, il faut que j'utilise le réveil que Jean-Paul m'a donné, il ne faut pas qu'il soit juste une décoration. On s'arrête là, il est 5. Donc ça va pour vous. On fait la pause déjeuner. Et puis après le déjeuner, on continuera, donc on pourra faire un petit peu les offrandes. Et puis, donc le groupe de discussion. Il est juste là, tout le monde le voit, il n'y a que moi qui ne le vois pas. Donc le déjeuner, c'est marqué de midi à 1h30, et les groupes de discussion de 1h30 à 2h30. Et donc, ce que je vous propose, dans le petit groupe, c'est discuter pourquoi méditer. Donc échanger, reprendre ce qu'on a vu ce matin, et puis échanger un petit peu vos idées, et puis voir que, en fait, cette question, vous pouvez vous la poser un petit peu tous les jours, pour vraiment donner le plus grand sens possible au potentiel extraordinaire qu'on a en tant qu'être humain. D'accord ? Juste rapidement, peut-être on dédie les mérites qu'on a accumulés. Donc dans le petit livret, toujours Découvert du bouddhisme, à la page 14. Donc on va chanter juste en tibétain, j'aime bien chanter. Les dédicaces et puis la prière de Longhi pour sa sainteté derrière.
Nge wadi nyodo da lama sangye do gyone do wa jigyo malumba deya zala ngyomba jo janjo zenjo rimbo je amagye panangye gyoji gyaba nyamba mepayon Gone gondum pelwa jo gare la wen ko we shingon de pendon de wa malu juene chene zi wan ten zin gazoi jabe zi de mba du ten gyuji.
Ok. Maintenant on va se libérer de la souffrance des genoux.
Un groupe de discussion avec Sylvie, Susanna et Jean-Michel, d'accord. Et puis Séverine et Sophie. D'accord. Vous voulez venir ici ou en haut comme vous voulez, si vous voulez. Mais ici, vous êtes. Alors, 1h30 ici. Depuis Céline, vous allez dans le petit salon. En haut, il y a les portes qui se ferment.
Dans votre boudoir.
Avec les fauteuils.
Ouais, c'est possible.
Puis vous allez faire comme moi, la sieste.